réseau Cogeco. Auto 360
avec Daniel Boudreau.
L'automobile sous toutes ses soutures, ses coutures, c'est en tout cas.
Auto 360.
Auto 360. Voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagu.
Oui, nous voilà de retour et nous allons prendre vos appels un petit peu plus tard à l'émission. On va parler de pneus si vous avez envie ou toute autre question de votre choix. Mais avant, il faut parler de Fiat. Hein, Philippe?
Ben, surtout une belle journée comme aujourd'hui et comme les belles journées qu'on a eues cette semaine, parce qu'on parle d'une Fiat décapotable.
Oh!
La Fiat 124 Spider, et que j'ai pu conduire, et j'ai conduit la version Abarth. Alors, wow. Vous allez voir, hein, ben, on le sait d'abord, Daniel, dans l'industrie automobile, là, faut jamais penser qu'un modèle est disparu pour de bon. Le recyclage, ben, c'est une pratique que les constructeurs maîtrisent très bien. Puis ça, tous les spécialistes de marketing vont vous le dire. Hein, la nostalgie, c'est une corde sensible.
Absolument, absolument. On recycle souvent les noms, par contre.
Ben, mais en fait,
là, voilà le nom et voilà le modèle reste dans le même esprit.
Ben, autant que possible, parce que si on sort un modèle, un nom qui évoque un souvenir, vous avez de bonnes chances, si vous êtes un constructeur, de frapper dans le mille. Mais si c'est un bon souvenir, évidemment, parce que ressortir la Pinto, la Vega ou la Gremlin, je suis pas certain que ça serait très winner, là. Pas sûr.
Pas vraiment.
Puis tu sais, des fois aussi, Daniel, on ressort un modèle, mais ça marche au début, mais ça dure pas bien longtemps. Pense à la New Beetle, dont le buzz a duré quoi, à peine 2 ans, ou à la dernière Thunderbird. Mais il y a des exemples aussi qui prouvent que, puis de nombreux exemples qui prouvent que ça peut être une bonne stratégie, c'est-à-dire rentable. On pense bien sûr à la Mini Cooper, la Camaro aussi, hein, c'est quand même bien réussi de ce côté-là. Alors,
oui.
Fiat a déterré un de ses classiques du siècle dernier, la 500. Lorsqu'ils ont décidé de revenir en Amérique du Nord ou au début des années 2010. Et comme ça a plutôt bien fonctionné, mais ils se sont dit pourquoi qu'on ne ferait pas la même chose avec un autre de nos modèles emblématiques. Et ah oui. Chez Fiat, ben, il n'y en a pas des tonnes. Hein? On pourrait même dire qu'il y en a seulement 2. Alors, ils n'ont pas eu besoin de réfléchir trop longtemps. Ils ont ressuscité la 124 Spider. Et cette fois, ben, on ne s'est pas trop cassé la tête et surtout, on a sauvé une fortune en coût de développement. On a conclu chez Fiat un partenariat avec Mazda qui, justement, fabrique un petit roadster très populaire, la MX-5, celle qu'on appelait autrefois la Miata. Et à l'origine, Daniel, c'est important de préciser que c'est l'Alfa Romeo Spider qui devait être développé conjointement avec Mazda. Mais finalement, le projet s'est retrouvé dans la cour de Fiat, qui, justement, avait, elle aussi, un Spider dans sa boîte à souvenirs. En résultat, ben, la Fiat 124 Spider est construite sur la même plateforme que la Mazda MX-5 et elles sont assemblées dans la même usine à Hiroshima, au Japon. Alors, donc, il y a une Fiat qui est assemblée au Japon. Après tout, il y a des Jeeps qui sont assemblés en Italie maintenant. Alors, c'est ça, la mondialisation aussi, hein?
Ben oui, pourquoi pas? On n'arrête pas le progrès.
Voilà! Maintenant, est-ce que ça fait de la 124 Spider un clone de la Mazda MX-5? Moi, je parlerais plutôt de jumelles non identiques. Puis encore, je dirais même juste des sœurs. Parce que oui, elles partagent la même plateforme, mais elles ont chacune leur propre moteur, hein, ce qui est quand même un gros facteur de différenciation.
Mm-hmm.
Ils n'ont pas la même carrosserie. Là. Il n'y a probablement pas un seul panneau, un seul morceau de tôle en commun sur les deux voitures. La MX-5 a une gueule plus agressive, peut-être, avec ses phares ciselés en avant et ses ailes bombées. La Fiat, elle, s'inspire clairement de son ancêtre. Et c'est, ma foi, plutôt réussi. Elle a l'air d'une Fiat. Elle n'a pas l'air d'une Mazda. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas de quel côté va ta préférence.
Ben moi, j'ai critiqué l'avant de la Mazda dès qu'elle est sortie. J'aime pas les phares à l'avant.
Moi, j'adore ça.
Je trouve que on aurait pu être un peu plus agressif. Alors, je me penche un petit peu vers le côté de la 124, mais je vais dire que c'est près un de l'autre. Mais mon cœur penche vraiment un peu plus. Et c'est vraiment la partie avant. Puis je dois y aller avec ce que j'ai dit à l'époque. C'est vraiment du côté de Mazda. Je pense qu'on aurait pu être plus agressif avec cette voiture.
Mais toi, tu as conduit, si on parle de la Fiat, parce que c'est de elle dont il est question, tu as conduit la version Abarth, toi aussi?
Non, j'ai conduit la régulière.
La régulière.
Oui.
Parce que la version Abarth, en plus, esthétiquement, il y a le capot et le couvercle du coffre qui sont noirs mâts. Et ça, c'est venu me chercher, parce que c'est directement inspiré des anciennes 124 Spider de compétition.
Wow, et, c'est réussi.
Et ça, pour un nostalgique comme moi, justement, là, ça marche, ça. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi de la Fiat 124, mais ça, c'est commun aux deux, là, à la Mazda également, c'est le toit. Hein, pour le baisser ou le remonter, là, ça prend juste quelques secondes, puis on a besoin de juste d'une main. On a, tu sais, fini les contorsions dans l'auto, là. Et ça, non, mais c'est-tu un charme, ce toit-là?
Un exemple.
Ah, ça, oui, vraiment, absolument. Mm. À l'intérieur, ben, on reconnaît tout de suite les emprunts à Mazda, évidemment, surtout le tableau de bord. Mais encore une fois, j'ai un petit penchant pour l'habitacle de la 124. Globalement, la décoration intérieure est un petit peu plus cossue. Bon, des panneaux de porte qui sont plus rembourrés. L'utilisation de la couleur rouge, hein, couleur symbolique, emblématique de l'Italie pour les coutures, les fonds de cadran. Un levier de vitesse couleur titane avec un petit peu de cuir. Bref, des petites touches d'Italie ici et là. Parcimonieuse, mais juste assez visible là, pour donner à l'habitacle de la Fiat là, une ambiance qui lui est propre.
Les sièges sont un peu plus travaillés. Les cuirs, tu vois que c'est du cuir italien qui sont un petit peu différents. Le piqué est différent. Alors, on a travaillé très fort du côté de Fiat.
On les a bien démarqués, je trouve. Ce qui est dommage, par contre, c'est qu'on n'a pas gardé le système d'infodivertissement Uconnect qu'on retrouve dans les véhicules du groupe Fiat Chrysler.
Là, je te rejoins.
Oui, parce que c'est un des meilleurs de l'industrie automobile et à la place, on a opté, ou plutôt on a laissé en place le système Mazda Connect qui, lui, à mon avis, est un des pires.
Absolument.
On en a d'ailleurs parlé à notre émission, c'était quoi, la semaine dernière ou il y a deux semaines? Quand on parlait des technologies.
C'est pas là que tu voulais tirer quelque chose dehors de la voiture?
C'était exactement le petit écran en question, effectivement. L'autre problème, puis ça, je suis content de parler de ça avec toi, Daniel, parce que t'es plus grand que moi, et j'ai hâte d'avoir ton feedback là-dessus, c'est l'espace. Et moi, j'ai pas de problème dans une Fiat 124 ou dans une Miata, mais je mesure 5 et 8. Mais dès que vous frôlez le 6 pieds, là, vous avez la tête collée au plafond. Tu mesures quoi, toi? CC1, CC2?
Non, tout près de 6 pieds. C'est plus vers le 6 pieds. Et effectivement, c'est ce qui blesse le plus au niveau de cette petite voiture-là. C'est l'espace. Vraiment, là, c'est là que tu as la tête directement dans le plafond. Et là, ça peut être désagréable dans certaines situations. Je dois dire qu'il faut ajuster le siège. On peut quand même l'ajuster et trouver une position assez confortable. Mais moi, j'aimerais ça avoir une petite affaire de plus d'espace. Je pense que dégager davantage le toit ne viendrait pas brimer la voiture, l'aérodynamisme de la voiture ou le style de la voiture, puis pourrait dégager un petit peu plus d'espace.
Ben, c'est parce qu'ils vont carrément perdre des ventes à cause de ça aussi. Là,
ben, c'est ça.
Puis même chose pour les sièges Recaro. Dans la version Abarth, là, moi, je les ai adorés, mais quelqu'un qui est un petit peu plus corpulent que moi va se sentir à l'étroit. Là. Par contre, ils sont optionnels. Donc, les sièges qui sont offerts en équipement de série sont moins enveloppants, donc un peu moins étroits. Là,
voilà.
Ceci m'amène à te parler de la différence fondamentale entre les deux voitures. C'est sous le capot. La Fiat 124 Spider utilise justement un moteur Fiat, soit le 4 cylindres multi-air de 1,4 litres, qui est suralimenté par un turbocompresseur, contrairement à la Fiat 124 Spider originale, qui, elle, avait un petit 4 cylindres atmosphérique. La version Abarth, qui est de retour, elle aussi, a droit à 4 petits chevaux de plus pour un total de 164. Donc, les versions Abarth, là, c'est avant tout cosmétique, hein? 4 chevaux de plus, là, c'est ça.
Ouais, change les roues, les pneus, quelques petites affaires.
Oui, mais ça a de la gueule, tu sais, comme je te disais, le capot, entre autres, et le couvercle du coffre, là. Et si je devais choisir entre une Fiat 124 et une Mazda MX-5, je serais bien embêté parce que le moteur de la Fiat, il est plus souple, il est moins rugueux que celui de la Mazda, et surtout, il a du son. Tu me permettras de citer encore une fois mon collègue Germain, parce que j'aurais pas pu écrire une meilleure phrase. Écoute ce qu'il a écrit. Il dit « De ces 4 échappements sortent le meilleur de l'Italie ». Et c'est exactement ce que je pense. C'est ce que j'ai constaté aussi. Et par contre, son moteur est turbo-compressé et ça paraît. C'est-à-dire, il y a du couple. Il y a plus de couple, le moteur de la Fiat, que celui de la Miata. Il y a un bon écart quand même. Mais sous les 3500 tours minute, il ne se passe pas nécessairement grand-chose. Mais une fois que le turbo embarque, là, puis quand on dépasse là, les 4000 tours minute, là, ça commence à devenir...
C'est un peu plaisir.
Ah, c'est jouissif, j'ose le dire. Et pour un maximum de plaisir, ben, faut jouer du levier, puis se tenir en haut régime. Sauf que c'est un moteur qui est très souple et qui se prête très bien à ça. Puis, écoute, dans une succession de virages, là, la Fiat 124, là, c'est sa raison d'être. Tout comme la MX-5, d'ailleurs. Parce que dire que c'est une voiture agile, là, ça, c'est un euphémisme. On se sent vraiment en symbiose avec la voiture. C'est comme votre deuxième peau.
La meilleure image, là, c'est un petit go-kart.
C'est le kart.
J'ai déjà essayé un petit go-kart.
C'est inévitable. C'est un cliché, incroyable. Mais c'est la réalité.
Et plusieurs personnes, Philippe, disent « Ah, ça, c'est des voitures de filles. » C'est des voitures de filles.
Je suis tellement pas d'accord.
Souvent, tu t'entends dire ça. Là,
ouais, ouais.
Tu vas aller te promener d'un gros muscle car puis avoir de la grosse puissance à outrance. Non, ça n'a pas 400 chevaux, mais tu peux t'amuser dans les petites routes comme jamais avec ces petites voitures.
Puis plus c'est sinueux, peut-être même plus tu as des chances de semer le muscle car malgré sa puissance. Hein, ça,
t'as jamais si bien dit.
Puis c'est important de le préciser. Puis il y a une chose qu'il faut dire. Tu fais une comparaison avec le kart, parce que c'est un petit peu inévitable avec ce genre de voiture-là. Mais contrairement à certaines perceptions-là, ou à certaines idées reçues, la MX-5 et sa cousine italienne, là, c'est pas des tape-cul. Moi, j'ai passé des journées complètes dans l'une et dans l'autre. Puis je peux vous dire que c'est beaucoup moins éreintant que dans une Mustang Shelby ou une Corvette Grand Sport. Là.
Absolument.
Qui sont des voitures en plus qui coûtent le double ou plus. Là.
Philippe, c'est des voitures de balade. Puis
tu peux
partir, aller faire une balade, aller faire de la route et t'arrives puis t'es pas éreinté, t'es pas fatigué à outrance. C'est aussi fait pour ça.
Puis c'est important de le dire, c'est important de le préciser. Puis il y a une petite chose aussi, c'est que la Fiat a sa propre suspension, a ses propres réglages de suspension. Puis ça aussi, ça fait une petite différence parce que je l'ai trouvé une petite coche plus confortable que la Mazda. C'est probablement la voiture avec laquelle j'ai fait le plus de kilométrage cet été et je n'ai jamais ressenti aucun inconfort, aucune fatigue et madame non plus, je le précise. Par contre, la Mazda, la MX-5, c'est la plus sportive des deux. Elle est un petit peu plus neutre en virage, à mort plus. Alors, en résumé, la 124 Spider est un petit peu plus grand tourisme. Un petit peu plus GT, tandis que la Mazda, c'est vraiment la plus sportive des deux. Une petite coche plus rapide aussi, la MX-5, notamment sur les accélérations mesurées. Là.
Ah, faut absolument aller essayer les deux véhicules pour faire sa propre opinion.
Oui, ça, le rendu-là, c'est comme la paire de souliers. Prenez celle dans laquelle vous êtes le mieux, puis c'est tout. Là. Le seul hic, évidemment, c'est que c'est le fun, mais c'est un petit peu cher. Avec un prix de base d'environ 33 000 $ là, les MX-5 et 124 Spider partent sur un pied d'égalité, là, à quelques centaines de dollars près. Sauf que dans le cas de la Fiat que j'ai essayé, qui était une abarthe, le prix dépassait 48 000 $ Donc, on n'est pas loin de 50 000 là.
Ça commence à être cher.
Ben, c'est une fois et demi le prix de base. Ça commence à faire beaucoup et je dirais même beaucoup trop. Puis là, bien évidemment, on parle de Fiat. Hein. Il y a toujours la question qui tue. Est-ce qu'elle va être moins fiable que la Mazda? C'est sûr que les antécédents et la réputation de la marque font un petit peu peur. Mais bon, à part le moteur qui est Fiat, il n'y a pas de crainte à y avoir pour le reste. Là. Alors, la Mazda ou la Fiat, je vais te demander ce que tu en penses, mais pour moi, c'est la Fiat par un cheveu.
Je voudrais pas. Ben,
au photo finish.
Ouais, ça, c'est bien dit parce que je suis à peu près là aussi, au photo finish. La seule affaire qui me ferait changer d'idée, c'est le devant. C'est le devant de la Mazda.
Toi, c'est juste ça.
C'est la seule chose. Et certains cuirs de la 124 que j'aime beaucoup, mais c'est à un cheveu un de l'autre. Donc, c'est deux véhicules. Comme tu l'as dit, allez choisir celle que vous préférez. Vous allez partir avec et vous allez avoir une voiture fort agréable à conduire.
Ben, moi, je précise de toute façon en terminant, là, si j'ai un petit penchant pour la Fiat, et surtout en version abarthe, c'est à cause de la nostalgie. Alors, quand je dis que c'est une corde sensible en marketing, là, j'en suis la preuve vivante.
Là, tu laisses choisir ton cœur et non ta tête.
Ah oui, mais quand on achète une voiture comme ça, de toute façon, c'est pas nécessairement un achat rationnel. Hein?
Effectivement.
Ouais. C'est pas comme acheter une Corolla.
Non, pas pantoute.
Mettons.
Merci beaucoup, Philippe.
Ben, ça a été un plaisir, Daniel.
On te lit à quel endroit?
www.philippelagu.com. Merci de le mentionner à chaque fois.
Fait plaisir. On se reparle la semaine prochaine.
Avec grand plaisir.
Alors, Philippe Lagu. En fin de pause et au retour, ben on vous parle. Restez là.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Auto 360 avec Daniel Boudreau.
On prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Au réseau Cogeco, Auto 360
avec Daniel Boudreau.
L'automobile sous toutes ses soudures, ses coutures, c'est en tout cas.
Auto 360.
Auto 360. Les nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard.
Les nouvelles de l'industrie, ça fait longtemps. Il est encore là, Marc?
Salut. Oui, moi, je bouge pas. Je suis fidèle au poste. Je vous laisse aller. Je me lance pas dans les. Je veux pas m'intervenir dans les conversations historiques parce que moi, je suis encore trop jeune. Je me souviens pas de ces vieilles voitures-là.
Bon, Marc, donne-nous une nouvelle, là, au lieu de dire des choses.
Écoute, dans la série des camions, mes camions préférés, OK, je te le dis, ça n'a rien de rationnel, pas du tout, mais j'ai trouvé ce que tu devrais m'acheter pour Noël, Daniel.
Bon.
Le Mercedes-Benz G, la classe G,
ah,
qui disparaît cette année, qu'on va remplacer l'année prochaine après 28 ans. Imagine, ça fait 28 ans que ça dure et on part en beauté. On part avec un G65 de 630 chevaux avec un V12 6 litres dont le prix de base est estimé à 460 000 $ canadiens. Mmh. On fait un 0-100 en 5,3 secondes avec un véhicule qui pèse plus de 5 000 livres et il y en aura 65 dans le monde.
Hey, tu parles d'une affaire. Et ça va se vendre. Ils vont tous se vendre. Ça va être là. Ça va partir comme des petits pains chauds.
Écoute, c'est une édition particulière. Là. Ça s'appelle la Final Edition. Ça vient avec une sellerie en cuir noir, avec des trucs en fait de carbone. Je suis convaincu qu'ils sont déjà tout commandés. Mais j'espérais que peut-être d'ici Noël, tu aurais le temps.
Mais c'est vraiment utile dans le marché, ça, en affaire de même.
Oh, écoute, c'est. Hey. Hey, en moyenne, juste, ça a été nommé le camion le moins économique sur le marché. On parle d'une moyenne de 24 litres au 100.
Mais là, tu payes 400 000 piastres pour ton camion, tu viens pas chialer qu'un plein d'essence.
Non, mais c'est parce que un, c'est pas pire. Six par semaine, ça finit par être fatigant.
Effectivement. Francis est en ligne. Bonjour, Francis.
Bonjour, messieurs, ça va bien?
Ah oui, toi?
Oui. Moi, j'ai une question. J'ai un Tacoma avec le 4 litres dedans. Mmh. Puis j'ai l'option du towing package dessus. Puis je me demande, ça tire jusqu'à 6500 livres. Mais moi, je trouve ça quand même beaucoup pour la grosseur du véhicule. Au niveau du confort, tu sais, de conduite, là, quand que je vais tirer, mettons, une roulotte, quelque chose comme ça, là, le maximum que vous me recommandiez là, pour l'agrément, ça serait à peu près combien de livres selon vous?
Ben moi, j'ai tiré avec... on était à San Diego, si je me trompe pas, sur le lancement de ce véhicule-là. Et on avait différentes charges en arrière. Et le 5000 livres semble être... parce qu'on avait 5000 livres. Et à 5000 livres, c'était parfait. Puis,
ah ouais.
Ce que moi... Ben, c'était parfait. C'est sûr que dans des situations de freinage, il faut faire attention. Et en côte aussi, ça dépend de... Dans le parc des Laurentides, il y a le 5000 livres, vous allez le sentir dans certaines côtes. Sur belle route, ça va bien aller. Mais le 5000 livres semble être une belle charge. Puis en plus, on a fait comme un genre de slalom avec. Donc, la stabilité du véhicule était correcte. Il faut vérifier la pression d'air d'un pneu pour s'assurer d'avoir une très bonne pression d'air. Il faut s'assurer que le 5000 livres, c'est un vrai 5000 livres. Parce que le problème des gens qui tractent, c'est qu'ils ont à peu près aucune idée de combien ça pèse. Puis là, je peux inclure les VR. Parce que si vous avez une roulotte, par exemple, on n'a pas vraiment idée du poids de notre roulotte. On sait qu'on nous la vend pour 3500 livres, mais une fois que le propane est plein, l'eau est là, l'eau grise n'est pas envoyée, l'eau sale, il en reste dedans, les réservoirs, les caisses d'eau qu'on met à l'intérieur, on serait surpris du poids additionnel qu'on embarque dans le véhicule. Alors ça, c'est un autre élément à vérifier.
Quand tu as fait ton essai, avais-tu des freins électriques dessus?
Il y avait les freins électriques sur la remorque. On avait deux ou trois types de remorques différentes. Alors, il y avait les freins et le comportement du véhicule était bien. Les barres de torsion étaient suffisamment tendues parce que ça, c'est un autre point à vérifier correctement. Alors, il faut bien installer sa charge et après ça, vous pourriez avoir un bon rendement.
Tu me recommandes de mettre les freins électriques dessus quand je vais aller chercher une charge, mettons, de 5000 livres. Là,
primordial.
Ah, OK. Excellent. Je te remercie beaucoup.
Merci. Tu peux en rajouter,
Marc? Salut.
J'avoue que moi, le Tacoma, le seul que j'ai essayé, c'est le TRD Pro, okay. Hors route. Alors, j'ai pas vraiment fait de remorquage avec. C'est pas vraiment conçu pour ça non plus. Alors, c'est pour ça que je t'ai laissé aller. Tu avais plus d'expérience que moi sur ce volet-là.
Pierre est là. Bonjour, Pierre.
Bonjour. Es-tu trop tard pour les pneus d'hiver?
Ben non, j'ai toujours gardé Jean-Guy avec moi. Hein? Toujours
là. Parfait. Qu'est-ce que vous pensez du Pirelli Winterize 0FR?
C'est un très bon radial Atlas, c'est un très bon pneu Atlas. Par contre, dans la gadoue, dans la neige, l'abondance de neige au sol, sur la chaussée, ça va être un pneu qui peut n'arracher un petit peu plus. Si vous êtes dans une dimension avec un profil qui est quand même large, ça va être un pneu où, quand on a une grande surface, une empreinte au sol qui est très large, ça demeure un pneu qui est un petit peu plus vulnérable dans la neige.
Jean-Guy, est-ce que c'est un pneu pour des gens qui font beaucoup de route? Moi, je pense que c'est un pneu.
Quelqu'un, oui, absolument. Tu as entièrement raison, Daniel. Quelqu'un qui fait beaucoup d'autoroute et qui veut avoir un comportement routier qui est intéressant, ça, ça peut être un bon pneu. Mais par contre, si on cherche la traction, si on cherche l'adhérence au freinage avec l'efficacité maximisée, c'est pas tout à fait le choix le plus judicieux qu'il y a.
OK. Parce que mon véhicule, normalement, il prend du 195-60R15, et puis j'ai opté pour le 185-65R15 parce
que
c'est un
excellent choix.
Parce qu'il ne se fait pas dans le 195-60.
Oui, mais déjà là, de l'emmener en 185-65-15, c'est un excellent choix parce que vous ratissez votre empreinte au sol, mm-hmm. et donc le poids va vous aider davantage à avoir un freinage sécuritaire.
Bon, bien, si on compare ça au Continental ici...
Ah, vous êtes mieux qu'un Pirelli.
Ouais. Oui, OK, parfait, merci.
Définitif. Mm-hmm.
Merci beaucoup. Madame Michaud est en ligne. Bonjour, Madame Michaud.
Oui, bonjour. Moi, je pourrais avoir un conseil, là. Je suis une grand-maman, j'ai une Toyota, moi, 2010.
Oui.
Et puis, là, je veux changer, je veux avoir de quoi de plus haut, comme un peu le RAV4, si tu veux, ou le Rogue, mais je sais pas dans quoi m'en aller, là. Lequel, là, que vous me conseilleriez, là?
Bon, là, tout à l'heure, j'ai parlé de quelqu'un qui était chez Volkswagen. J'ai dit, restez chez Volkswagen. Si vous êtes content de votre concessionnaire, vous êtes content de Toyota, le RAV4 est un superbe choix dans la même lignée. Si vous voulez avoir une traction intégrale pour l'hiver, la sécurité est assez plus haut. C'est un excellent choix. Et dans le sport utilitaire de ce type-là, vous avez parlé du Rogue, vous avez parlé aussi, on peut parler du Qashqai si vous ne voulez pas avoir cette dimension-là, du Rogue qui est un peu plus gros, ça peut être un bon choix. Le CR-V est un autre bon choix. Est-ce que vous faites beaucoup de routes par année?
Non, non, non. Non, non, puis je veux pas avoir trop gros. Non, non, je fais seulement de la ville, là. Une personne âgée, mais c'est parce que je veux simplement avoir de quoi de plus haut. Là, j'étais habituée autrefois là, avec des petites vannes quand je travaillais autrefois. Là. Puis là, j'avais changé pour un Toyota, mais là, j'aimerais avoir de quoi un petit peu plus haut, mais pas énormément gros quand même.
Non, mais comme Daniel vous l'a dit, moi, je pense que le Nissan Qashqai pourrait être un excellent choix dans votre cas parce que c'est un véhicule qui est plus haut, qui est un peu plus gros, qui va vous donner la sécurité dont vous avez besoin, qui a fait ses preuves aussi, donc qui est un véhicule qui est fiable avec un rouage intégral intéressant et que vous allez avoir à un meilleur prix qu'un RAV4 en fait. Évidemment, le RAV4 est un très très bon véhicule, mais il est un peu plus cher, un peu plus gros. Si vous voulez un bon compromis entre les deux, moi je pense que le Qashqai est probablement votre meilleur choix dans cette optique-là. Le
Qashqai, c'est dans Nissan.
Oui, effectivement.
Merci beaucoup, bon, Madame Michaud, d'avoir appelé.
Merci beaucoup, au revoir.
Marc est en ligne. Bonjour, Marc.
Bonjour.
Bonjour.
J'ai une question sur l'usure des pneus de ma voiture d'origine.
Oui.
J'ai fait environ 25 000 km, puis ils sont passablement usés. C'est des Hankook. J'aimerais savoir si c'est normal qu'une voiture avec des pneus d'origine de la voiture neuve, que ça soit usé comme ça, d'une part. Puis deuxièmement, est-ce que j'ai-tu un recours, moi, si je vais voir mon concessionnaire?
Ça, non. Ça, c'est clair que non. Quel type de véhicule vous avez?
Un Beetle 2015 qui va très bien. La voiture va très bien, mais les pneus sont vraiment très, très usés. J'ai pas fait de conduite spéciale avec cette voiture-là.
On va attendre Jean-Guy là-dessus parce que moi, ça m'étonne que d'habituellement, ce type de pneus-là ou les pneus d'origine font quand même un peu plus de kilométrage que ça.
Absolument, définitivement. Qu'est-ce qu'il y a à surveiller? Premièrement, est-ce que c'est une usure régulière ou irrégulière sur les semelles de
pneus? Ça semble être...
Parce que ça, il y a trois choses qui rentrent en ligne de compte sur l'usure prématurée de nos pneus. Premièrement, si on n'a pas les bonnes pressions d'air adéquates, ça vient jouer un facteur assez important. L'alignement sur le véhicule, si le parallélisme n'est pas adéquat, qui manque de précision, ça va également hypothéquer la vie de vos pneus. Et troisièmement aussi, la permutation qu'on a faite, les soins qu'on a apportés à nos pneus. Il ne faut pas chercher ailleurs, c'est vraiment à ces trois endroits-là, ces trois facteurs-là, qui rentrent en ligne de compte si on a une usure prématurée sur nos pneus.
Donc, normalement, une usure des pneus d'origine, ça devrait durer quand même plus longtemps que ça. Là.
Absolument.
Absolument. Ça, là, vous êtes hors norme, mais de beaucoup hors norme.
Oui, de beaucoup. On parle pratiquement le double. Est-ce que vous faites beaucoup de votre...
Surtout de la ville.
Surtout de la ville.
Oui, oui, c'est ça.
À ce moment-là, c'est sûr. On irait chercher pratiquement le double de kilométrage. Là. Pas le double nécessairement, mais pratiquement le double. Mais il s'est passé quelque chose. Si vous avez fait 25 000 km avec des Hankook, c'est pas mauvais non plus comme produit. Ils ont sorti des pneus d'origine qui ont fait un très bon travail, un excellent travail. il faudrait vérifier, se pencher plus qu'est-ce qu'on lui a apporté comme soin. Est-ce que les permutations ont été faites au bon moment? Parce que vous savez, les permutations des pneus, hein, ça rentre beaucoup dans la prolongation de notre kilométrage qu'on peut faire avec nos pneus. Si on fait les rotations, les permutations adéquatement au bon moment, on prolonge la vie de nos pneus de beaucoup.
Merci beaucoup d'avoir appelé.
Merci, bonjour.
On fait une pause et au retour, bien, on vous parle encore. Restez là.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Auto 360 de retour après la pause.
Au réseau Cogeco. Au réseau Cogeco.
Auto 360.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
On m'a surpris un peu en début d'émission. Jean-Guy nous a dit, quand on parlait des pneus qui étaient des pneus 4 saisons, il dit ils se sont achetés un pictogramme flocon.
Oui.
Jean-Guy, je veux que tu m'expliques comment on s'achète un pictogramme.
Ben, c'est parce qu'on a modifié. C'était des pneus. En général, ça a commencé, l'investigateur de cette nouvelle mode. C'est une réaction des manufacturiers suite à la loi qui a été produite en 2008, où ce qu'on s'est doté au Québec de l'obligation d'avoir des pneus divers sur nos véhicules. Les manufacturiers ont réagi d'une façon où ils ont dit, bon, ben, pour nos marchés, pour prévenir nos marchés, faut faire en sorte qu'on va essayer de s'adapter à quelque chose de différent. Donc, surtout dans le pneu de camionnette, dans le pneu pour les SUV, on a décidé d'aller chercher un pictogramme. Comment est-ce qu'on fait pour aller s'acheter un pictogramme? Ben, on modifie notre bande de roulement, on y rajoute un peu de silice, et on l'adopte, on va y travailler, on va y enlever un petit peu, on appelle ça le shaver dans le domaine, et on va y faire une coupe, une petite coupe rafraîchie, et on va dire, ben voici à nos gens de Transport Canada, voici notre pneu qui est adapté pour l'hiver, pour faire face aux conditions hivernales. Donc, on y fait passer quelques tests, et on passe de justesse les tests qui sont prérequis, et on vous donne la permission, puis on vous donne en bonus le pictogramme de la montagne.
Mais
avec le flocon.
Il peut y avoir, je comprends Jean-Guy, tu ne sembles pas vraiment chaud à l'idée d'avoir 4 saisons, sauf qu'il y a peut-être certaines applications.
Oui,
ceux qui vont passer l'hiver dans le sud, par exemple.
Pensons à nos snowbirds. Mais par contre, ça reste que c'est un pneu de compromis. Il ne faut pas oublier ça. Donc, c'est pas tout à fait un pneu 3 saisons, j'appelle. Puis c'est pas un pneu d'hiver non plus. Ça fait que c'est un entre-deux. Fait qu'on est vulnérable un petit peu quand on a des conditions hivernales assez féroces. Et on n'est pas tout à fait, on ne vous sortira pas les caractéristiques d'un pneu 3 saisons comme on devrait le faire.
Si on est équipé de ce pneu, prudence, c'est
ça
la règle.
Ça répond à ta question, Marc?
Totalement.
Okay.
Maxime est en ligne. Bonjour, Maxime. Dominique est en ligne. Bonjour, Dominique.
Oui, bonjour.
Bonjour.
J'appelle parce que je cherche une voiture qui peut prendre 6 adultes. Okay. J'ai passé d'une fourgonnette, les enfants ont grandi. Là, j'ai passé un Journey. Le Journey est une bonne petite voiture, mais des petits troubles qui sont venus régulièrement. Puis je veux retrouver quelque chose qui va être fiable, mais qui va pouvoir asseoir 6 adultes.
Dans le sport utilitaire.
Oui, pas trop gros. Le Journey, c'est pas trop... pas de gonfler, comme on peut dire, là, pas très haut non plus, mais quelque chose d'équivalent. Là.
Quelque chose d'équivalent, mais vous allez devoir payer un petit peu plus cher, par contre,
oui,
pour avoir, aller
plus
chercher.
Plus cher, ça,
moi, le multipassager que vous pouvez voir qui va vous donner de l'espace, de la fiabilité, qui, je l'avoue, va être un petit peu plus cher, c'est dans le Toyota Highlander, par exemple. Le Honda Pilot aussi sont des véhicules où vous pouvez aller jusqu'à 8 passagers. Et là, vous allez avoir quand même aussi de l'espace. Vous allez avoir un véhicule qui est plus gros, plus imposant. Je l'avoue, plus cher. Je pense que dans l'usager, vous allez être capable d'en trouver un peu. C'est les véhicules qui vont vous donner le meilleur rendement pour ce que vous cherchez. Dans le 9, il y a le Tiguan maintenant qui est offert en 7 passagers que vous pouvez aller chercher également. Et chez GM, il y en a un peu. Et le Santa Fe XL, j'y arrivais, qui est tout un véhicule. Le Sorento?
Sorento aussi. À la limite, on peut même aller à le Mitsubishi Outlander, qui a une version disponible avec 7 passagers. Évidemment, si les 6e et 7e places ne sont pas utilisées trop souvent, ça peut aussi vous faire la job là, quand on a un petit besoin, disons.
Oui, parce qu'avec le Journey que j'ai de la place pour 6, là, mais les ceux d'en arrière, c'est vraiment pas adapté pour eux autres. Là. C'est ça.
Le Heartlander va dépanner, mais lui non plus ne sera pas capable de le faire. Dans le petit, là où on commence à avoir de l'espace, le bon choix que Marc a dit, le Santa Fe XL, lui peut vous offrir encore un petit peu plus d'espace, puis il va être le compromis au niveau du prix. Si vous pouvez, financièrement parlant, vous permettre un Highlander ou un Pilote, là, vous allez aller chercher le meilleur de la catégorie.
OK, parfait. Bonjour, merci.
Merci d'avoir appelé. Steve est en ligne. Bonjour, Steve.
Oui, bonjour.
Ouais.
J'aurais deux questions rapides. La première, j'ai deux F-150 2017 avec du 20 pouces. Un qui fait pas mal de villes, l'autre fait plus d'autoroutes. C'est quoi les meilleurs tires d'hiver pour aller là-dessus?
Celui qui fait plus de villes, sans aucune hésitation, dans Hankook RW11. C'est vraiment le pneu d'hiver le mieux adapté pour qu'est-ce qu'on a à faire face par rapport au type de véhicule que vous avez. Et si vous faites beaucoup de grandes routes, le pneu qui est intéressant, soit du côté de Michelin Latitude X16 ou le Nokian, le R2 SUV.
OK, parfait. Ma deuxième question.
Oui.
J'ai un Mercedes Sprinter.
Oui.
J'aimerais savoir, pour garder la garantie, on est-tu obligé d'aller au concessionnaire parce qu'ils sont complètement malades quand c'est dans des changements d'huile? Là.
Ah oui, absolument. C'est affreux de voir ça. Non, pour répondre à votre question, vous avez pas aucune obligation d'aller chez un concessionnaire automobile pour faire l'entretien de votre véhicule. Qu'est-ce qui est obligatoire pour un propriétaire de véhicule, c'est de maintenir l'entretien recommandé du manufacturier.
Et conserver vos preuves d'entretien. Ça,
exact.
C'est la chose la plus primordiale que vous devez faire. Si vous n'êtes pas content des tarifs, vous n'êtes pas content du travail de votre concessionnaire, vous êtes libre d'aller où vous voulez, mais vous devez être en mesure de prouver que l'entretien a été fait et que les produits utilisés répondaient à les normes. Par exemple, l'huile que vous avez mis, vous devez avoir la marque d'huile pour s'assurer que l'huile, mais le grade d'huile pour respecter vraiment les normes du manufacturier. Et ça, sont pointilleux là-dessus.
Oui, parce que mon dernier changement d'huile, ça m'a coûté 700, puis je lui ai dit, vous êtes malade, puis il m'a dit, faites-vous en pas, le prochain, il est 15 ans.
Ouais. Non, c'est pas catholique trop.
On les fait pas souvent. C'est sûr qu'ils ont extensionné les changements d'huile, l'espace entre les changements d'huile, mais lorsque vous rentrez, ils vous reprennent. Merci beaucoup. Gaétan est en ligne. Bonjour, Gaétan.
Oui, bonjour, M. Boudreau.
Bonjour.
Moi, j'hésite entre deux véhicules utilitaires sport. Je les ai essayés toutes les deux. Il y en a un, c'est un Hyundai Tucson, puis l'autre, c'est un Kia Sportage. J'ai essayé le véhicule sur la route. J'ai toutes les deux des bonnes sensations. Toutefois, lorsque je me fais faire le prix, il y en a un qui est 8 000 $ de plus que l'autre. Y a-t-il quelque chose que je vois pas?
C'est lequel qui est plus cher? Parce que le sportage dans certains équipements vient un peu plus cher, mais pas à ce niveau-là.
Pas à ce niveau-là. Hein. Oui, c'est ça. Celle-là qui est le plus cher, dans le fond, c'est le Kia Sportage.
Oui, c'est
ça. Et lui, il y a le moteur 2,4 litres. Le Hyundai Tucson, il y a le 2 litres. Mais le reste des options... tout est pareil, sauf le Kia Sportage.
C'est le 1,6. C'est le 1,6 litres turbo qui irait chercher un niveau d'équipement, je pense, équivalent à ce que vous allez chercher au niveau du Sportage. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est plus cher, mais vous devriez vérifier les options parce que vous savez que c'est deux véhicules qui sont bâtis sur la même plateforme. Donc, on peut dire que c'est deux véhicules à peu près pareils. Pour ce qui est du choix, ça va vraiment au style. Il y a la transmission double embrayage qu'il faut faire attention du côté de Hyundai. Mais pour le reste, c'est deux véhicules assez équivalents. Je ne sais pas si Marc a un choix plus que l'autre.
Ben non. Le Sportage est peut-être un peu plus sportif dans la conduite, mais si vous avez essayé les deux... Vous avez déjà ressenti la différence, mais il n'y a aucune raison pour qu'au même niveau d'équipement, il y ait un écart comme celui-là, à moins qu'un des deux manufacturiers ait un programme financier particulier à un moment précis. Mais normalement, là, à option égale, à version égale, à motorisation à peu près similaire, vous devriez avoir un prix qui se... Écoutez, la différence devrait être de quelques centaines de dollars tout au plus, là, pas de 8 000 $ jamais.
Et non, revérifier les options, revérifier le véhicule pour aller chercher à peu près l'équivalent. Un et l'autre, vous le savez que c'est la même famille, c'est la même plateforme. Alors, il s'agit juste de trouver le bon groupe d'équipement selon le véhicule. Et pour répondre à votre question, là, que ce soit le Sportage ou le Tucson, vous avez quand même un bon véhicule entre les mains. Merci beaucoup d'avoir appelé, bien gentil. On s'arrête pour une pause, puis au retour, on poursuit les appels.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Petite pause, on revient vite. Restez là. Au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360
avec Daniel Boudreau.
Nous sommes de retour et comme il ne reste pas grand temps, appel, réponse rapide. Question courte, réponse courte. On va essayer. Jean-Marie, là. Bonjour, Jean-Marie.
Bonjour. Moi, ce sujet des pneus d'hiver, là,
oui.
Pour une Q5, là, ils ont 5 ans de fait, là, les Pirelli.
Oui.
Il reste peut-être 3-4 mm. Okay. Est-ce que c'est mieux d'échanger?
À 3,32, 3,4. 32e d'épaisseur de semaine, on arrive pratiquement sur la bande de sécurité, la marque de sécurité qui est là.
Ouais,
fait qu'on perd beaucoup d'efficacité. Hein.
OK. Moi, je pense au Bridgestone Blizzak.
Oui, c'est bon. C'est bon comme produit. C'est tout dépendant de ce que vous faites comme route.
Vous allez perdre. C'est un véhicule avec une suspension rigide.
C'est ça, avec des voies triangulaires.
C'est oui. surtout ville.
Ouais. C'est un pneu qui, par rapport à votre type de suspension, comme Daniel vient de le mentionner, n'est pas tout à fait le mieux adapté. Je regarderais plus du côté quelque chose que plus rigide, là. Nokian. Nokian est un pneu qui va super bien sur un Q5. Je vais vous dire, pour l'avoir essayé, là, j'ai roulé ça, puis je vois vraiment que c'est un pneu. La construction de la carcasse est bien adaptée.
Merci beaucoup, Jean-Marie. On a Jean-Philippe. Jean-Marie, je vais te laisser réponse courte. Jean-Philippe, bonjour.
Oui, moi j'ai acheté un Kia Sportage 2017, puis c'est un peu la même question. Je veux savoir qu'est-ce que vous suggérez plus comme pneu d'hiver.
Sur un Sportage, il y a quand
c'est
même...
C'est quelle dimension de pneu que tu as? Il y a 2, 3...
2.
Du 17 pouces, c'est du 17 pouces que je veux garder à l'hiver. Je fais à peu près 50 km, aller, ben 100 km par jour. C'est surtout de l'autoroute, puis j'habite en région, fait que...
En région, bien, moi, j'irais regarder du côté d'Hankook, le RW11, c'est un excellent choix pour un type de véhicule comme vous avez. Et si vous voulez avoir, vous mettez un petit peu plus de budget, regardez dans le Norman 7 de Nokian. Norman 7 SUV, là, c'est un excellent choix cette année.
Good, merci.
Merci.
Merci beaucoup. Christian est en ligne. Bonjour, Christian.
Oui, bonjour. Ma question est rapide. Elle rejoint un peu le commentaire que vous avez parlé tout à l'heure par rapport à l'icône pour les pneus. Moi,
oui.
Je regarde, j'ai un Jeep Wrangler Unlimited, 4 portes.
Oui.
Et je regardais pour un Duratrac ou un All-Terrain dans le All-Around, si on veut, dans 4 saisons. Là.
Oui.
C'est qu'est-ce qui serait meilleur? Mais là, vous parlez que ça serait quasiment pas bon pour l'hiver.
Bien, c'est parce que c'est un compromis. Tu sais, c'est pas le pneu qui va vous donner la meilleure adhérence côté sécurité pour le freinage. C'est ça qui est important, qu'il faut que vous êtes conscient que c'est un compromis. Tous ces pneus-là, là, que ce soit la nouvelle gamme de Goodyear, le Wrangler AT Aventure ou le Duratrac, un comme l'autre, ça se trouve être des pneus qui sont des compromis. Alors, si on regarde chez BF Goodrich, le All-Terrain, le KO2, le Toyo, le Open Country AT2, c'est tous des pneus avec un pictogramme que je dis, moi, question de le caractériser, qui se sont achetés des pictogrammes pour l'hiver.
Parce que je fais pas grand kilométrage, avec pour moi...
Ben dans cette gamme-là, si vous faites pas beaucoup de kilométrage, puis vous n'êtes pas obligé de sortir lorsque les intempéries sont sur nos chemins, puis que les conditions sont dures, ben Goodyear demeure un excellent choix, mais je regarderais plutôt du côté de BF Goodrich, par contre. BF Goodrich a une empreinte au sol, le dessin de semelle est un petit peu plus adapté, qui pourrait vous donner une meilleure sécurité au freinage.
Puis pour le look, là, je voudrais aller dans le plus large.
Dans le look
hiver,
aussi.
C'est pas vraiment un bon choix, là.
Non, c'est pas un bon choix du tout. Le look en hiver, ça fait pas bon mélange parce que plus qu'on est large, moins qu'on est efficace.
OK. C'est parce que d'un sens, pourquoi je dirais vers ce pneu-là, c'est que j'aurais pu l'enlever là, pour l'hiver. Là. Je laisserais là à l'année. Là.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est
juste ça. La rotation, là.
Mais c'est ça, exactement. Vous faites un compromis.
Vous faites un compromis, ça, c'est bien important.
Gardez ça en tête que c'est un compromis, puis que souvenez-vous que quand on roulait avec des pneus 4 saisons en hiver, qu'est-ce que ça faisait, puis qu'est-ce que ça produisait en termes de conduite.
La gomme est pas molle comme un pneu.
C'est ça, exactement.
Merci beaucoup d'avoir appelé. Marc, une dernière nouvelle en terminant.
Nouvelle très très rapide, le Nissan Rogue que l'on connaît, qui va bénéficier à partir de 2018 de la même technologie que la nouvelle Leaf. Ça s'appelle le Pro Pilot Assist. Oh. Ça devient le premier SUV qui va avoir accès donc à une, disons, à des commandes semi-autonomes qui vont permettre au camion de se diriger lui-même dans des conditions particulières, évidemment. Pas en ville, par contre, va être aussi capable de freiner en cas d'urgence tout seul. Donc, c'est le premier VUS qui va être équipé de ce genre de système-là en Amérique.
Merci beaucoup, Marc. On se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Jean-Guy, d'avoir
merci,
été
Daniel.
Là.
Merci, Daniel.
Et merci à Philippe Lagu également. On se reparle la semaine prochaine. Merci d'avoir été là.
Soyez là samedi prochain pour une autre édition d'Auto 360 avec Daniel Boudreau.